Je vais essayer de vous parler d'un livre de Catherine Malabou qui s'appelle « Métamorphose de l'intelligence » avec un sous-titre énigmatique « Que faire de leur cerveau bleu ?» Alors, Catherine Malabou est née en 59, c'est une philosophe française. Elle est ancienne élève de l'École normale supérieure. Elle est spécialiste de philosophie contemporaine française et allemande. Elle a consacré sa thèse de doctorat à Hegel sous la direction de Derrida en 94. Parmi ses thèmes de réflexion, il y a le concept de plasticité dans les neurosciences. J'essaierai d'expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. Et elle a, parmi ces dizaines d'ouvrages qu'elle a produits, il y en a un qui s'appelle « Que faire de notre cerveau ?» et celui-là, « Métamorphose de l'intelligence », qui va nous occuper pendant quelques minutes. Alors, les principales caractéristiques du livre, tout d'abord sur la forme. C'est un livre difficile, mais la présentation est claire. Il y a la volonté de se faire comprendre, me semble-t-il, sur des sujets difficiles, tant en philosophie que en sciences, notamment la biologie, où on parle beaucoup de génétique, en informatique, où on parle d'architecture d'informatique. Donc, les deux sujets techniques et scientifiques sur la biologie et l'informatique, je restituerai ce qui est dit, tout en n'ayant pas la compétence complète sur ces sujets-là. Alors, sur le fond, de quoi s'agit-il, ce livre ? Alors, c'est l'histoire du concept d'intelligence dans ses relations avec la philosophie, la psychologie expérimentale et, comme on dirait aujourd'hui, les sciences cognitives, d'où l'expression de métamorphose, puisqu'on va suivre les différents sens du mot intelligence au travers du temps. Alors, les auteurs cités qui donnent une idée de l'ouvrage, il y a tout d'abord Bergson avec l'intuition opposée à l'intelligence, Francis Galton, qui était anthropologue et fondateur de l'eugénisme, Alfred Binet et Simon, fondateur des tests de psychologie. Il est question aussi de Piaget avec la genèse de l'intelligence, d'Henri Atlan, médecin et philosophe, de Bourdieu, sociologue, et d'un auteur américain que je n'ai jamais lu, John Dewey, philosophe et psychologue américain, 1859-1952. Donc c'est pour donner une idée du corpus de l'auteur. Alors ce qui est surprenant dans ce livre, tout d'abord, dans son introduction, c'est que c'est une critique radicale de son précédent livre, « Que faire de notre cerveau ?» Alors, ce précédent livre affirmait que toute comparaison entre le cerveau naturel et la machine, l'ordinateur, était impossible. Mais les dernières avancées de l'intelligence artificielle, avec le développement de la puissance des ordinateurs et l'avènement des puces synaptiques, j'expliquerai ce que ça veut dire, rend cette position difficile et intenable. Donc, ce livre est en parfaite contradiction avec son précédent livre, et elle l'avoue simplement, ce qui est assez rare, non seulement en philosophie, mais dans d'autres ouvrages. Alors, je ne vais pas détailler, c'est un livre court, qui fait à peine 200 pages, malgré tout, je ne peux pas reprendre tous les aspects du livre. Je mettrai en avant deux thèmes, la résistance des philosophes au concept d'intelligence et les conséquences de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans la compréhension de l'intelligence naturelle. Alors, résistance philosophique au concept d'intelligence. Il y a eu au début du siècle dernier, c'est-à-dire au XXe, c'est ça, le siècle dernier, c'est le XXe, une opposition entre philosophes et psychologues en ce qui concerne l'intelligence. Le concept d'entendement est préféré par les philosophes car le concept d'entendement est universel et neutre au regard des variations individuelles. Tout ça en opposition à Alfred Binet dans son débat avec Bergson, car la première version des échelles métriques de l'intelligence en 1905 est perçue comme l'instrument de mesure de l'inégalité entre les hommes. Et Bergson conteste en disant que la pensée ne se mesure pas. En effet, pour Bergson, l'intelligence n'est pas à l'origine une faculté individuelle, mais plus largement une capacité d'adaptation de la vie. Seule l'intuition ou pensée permet la connaissance intime de l'esprit. Alors, deuxième contestation que l'on comprend mieux, c'est la contestation des thèses de Francis Galton, 1822-1911, anthropologue, cousin de Darwin, il y a peut-être des raisons, donc, défenseur du caractère héréditaire du génie et fondateur de l'eugénisme, qui a conduit à rechercher une race d'hommes hautement doués par le moyen de mariages judicieux sur plusieurs générations pour aboutir à des politiques natalistes qui promulguent des lois de stérilisation, volontaires ou forcées, touchant des individus atteints de tares héréditaires. Alors c'était un principe, mais qui malheureusement s'est traduit dans la réalité, puisque de 1907 à 1940, 30 000 individus ont été stérilisés aux États-Unis et 400 000 en Allemagne. Il y a une troisième opposition que je signale, c'est que la mesure de l'intelligence avait des conséquences politiques et s'était perçue comme un principe policier de surveillance et de normalisation des individus. Alors on peut faire une toute petite distinction entre la position d'Alfred Binet et la position de Galton. C'est que dans le cas de Galton, l'objectif, c'était de l'eugénisme, tandis que dans le cas d'Alfred Binet, c'était juste la mesure. La mesure s'était faite pour aider et rechercher d'aider les élèves en difficulté. En résumé, les philosophes réfutent un déterminisme de l'intelligence comme un ensemble de caractéristiques innées, mesurables et inégalement réparties entre les individus, et s'en tiennent à l'intellect, à l'entendement, à la raison, aux conditions de possibilité de la pensée, communes à tous les hommes, hors de la vie biologique et du cerveau. Donc voilà le cadre général dans lequel s'inscrit la réflexion de l'auteur. Alors comment dépasser ces résistances ? Pour aborder le problème de l'intelligence d'autres manières, il faut faire appel à d'autres concepts. Et là, je vais énumérer trois thèmes dont on va parler. Donc, il faut essayer de rapprocher l'intelligence naturelle de l'intelligence artificielle et de leur trouver des points communs. De changer de paradigme, tant en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau que celui de l'ordinateur. Et de chercher à montrer que l'intellect des philosophes, l'intelligence naturelle des psychologues et l'intelligence artificielle des informaticiens peuvent être rapprochés et sont, entre guillemets, compatibles. Alors, c'est un vaste programme. Et j'ai simplifié énormément. Alors, trois faits majeurs sont à prendre en compte qui permettent de résoudre cette dernière question, enfin, qui permettent d'aller essayer de résoudre cette dernière question. Tout d'abord, il y a eu l'abandon du tout génétique. Dans les années 80, la révolution neurobiologique a démontré, grâce au séquençage de l'ADN, qu'on ne trouvait pas de gène de l'intelligence. Donc on a abandonné le tout génétique au profit de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui étudie les interactions entre les gènes et l'environnement. Le deuxième fait qui va permettre d'expliquer, quand j'ai parlé de plasticité neuronale, c'est la découverte de la plasticité neuronale ou plasticité synaptique. C'est la propriété que les connexions entre les neurones, appelées synapses, ont de changer en fonction de l'usage qui en est fait et joue un rôle fondamental dans les processus de mémorisation et d'apprentissage. Alors, les connexions synaptiques se modifient en permanence, non seulement de l'enfance à l'âge adulte, mais également pendant toute sa vie. Et on sait que des synapses qui ne sont pas utilisées s'étiolent ou meurent. Et ces modifications de l'architecture neuronale sont façonnées par les influences du milieu, de l'habitude, de l'éducation, et se traduisent par le renforcement ou l'affaiblissement des connexions synaptiques. Troisième fait majeur, c'est la mise au point de puces informatiques dites synaptiques, qui sont capables d'apprendre et de corriger leurs propres erreurs et de modifier leur programme par essai et erreur. Alors c'est très difficile de donner des exemples de puces synaptiques. Quand le correcteur orthographique des traitements de texte, c'est déjà de l'intelligence, enfin c'est pas de l'intelligence artificielle, mais ça peut l'évoquer. La capacité, quand ceux qui font de la programmation, les personnes qui font de la programmation, savent que quand ils tapent une commande erronée, le système le signale. Là où il y aurait une différence dans l'intelligence artificielle, et ça existe, c'est que non seulement l'erreur est repérée, mais le système cherche des solutions par lui-même, c'est-à-dire il essaye d'itérer par rapport à l'erreur et trouver l'écriture ou le code qui est bon, et une fois que c'est fait, teste le programme qui en résulte. Si le programme n'est pas bon, il revient en arrière, donc par essai et erreur. Là, ça imite un peu le fonctionnement de l'esprit humain. Alors, j'ai cru comprendre que la reconnaissance faciale relevait de l'intelligence artificielle. Donc, mise au point de puces synaptiques capables d'apprendre et de corriger. Dans le cadre du projet Cerveau Bleu, le projet Cerveau Bleu ou IBM Blue Brain, qui se déroule à Lausanne depuis 2013, a pour objectif la création d'un cerveau synthétique. Et d'où que faire de leur cerveau bleu signifie que faire de l'intelligence artificielle. Alors les conséquences de ces trois faits. Alors une caractéristique particulière de la plasticité neuronale biologique est la réparation ou la réorganisation des tissus après traumatisme. Une caractéristique des nouveaux programmes informatiques et de pouvoir suspendre ces automatismes, et en particulier d'anticiper une panne, de la prévenir et de la corriger. Donc la possibilité de se réorganiser, symbole du vivant, s'étend aux machines. Pouvoir arrêter son automatisme et être capable d'apprentissage sont une preuve d'intelligence commune aux êtres humains et aux machines. Alors, il faut me croire sur parole, hein. Il y a de la plasticité neuronale et cybernétique, comme il y a des automatismes computationnels et biologiques. Donc il y a un rapprochement entre le système vivant et le système informatique. Donc l'auteur dit qu'il y a certainement là une piste pour résoudre le conflit entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Alors la première métamorphose, puisqu'on parle de métamorphose de l'intelligence, correspond à la caractérisation de l'intelligence comme entité mesurable. La deuxième permet de soutenir l'hypothèse d'une identité de structure entre intelligence naturelle et machine synaptique. Et la troisième métamorphose, encore à venir, correspond à la levée des frontières entre nature et artifice. Alors ces métamorphoses sont-elles le signe ou l'annonce d'une destruction de l'humanité ? Ou sont-elles, au contraire, et c'est ce que pense Catherine Malabou, la promesse d'une alliance inédite de la biologie, de la philosophie et de la cybernétique? Donc il s'agit de dépasser les affrontements directs, intellect contre intelligence, ou naturel ou artificiel, et de rechercher leur dialectique. La compréhension de l'identité de structure entre intelligence naturelle et intelligence artificielle doit nous permettre de comprendre mieux l'une et l'autre et de contrôler la montée en puissance de l'intelligence artificielle par le contrôle démocratique et l'autogestion mondiale des savoirs. Alors toutefois, l'ouvrage se termine par une inquiétude liée aux avancées technologiques permettant de modifier le génome, malgré l'interdiction de faire naître un enfant dont le génome aurait été modifié. Il y a donc un risque de revoir le risque eugénique et de revenir à Galton. La vigilance éthique est plus que jamais nécessaire. Alors moi, à titre personnel, j'ai trouvé que l'ouvrage constituait une étape provisoire dans la résolution du problème qu'elle posait. J'ai pas eu le sentiment qu'elle allait jusqu'au bout, mais peut-être que les spécialistes ne seront pas d'accord avec moi. Bon, mais c'est un livre quand même intéressant malgré sa difficulté. Voilà.